C'est toujours spécial. Toujours spécial. Prions. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, de lire ta parole. Et Seigneur, merci pour ton esprit qui nous éclaircit, qui nous convainc de notre péché, qui nous convainc, Seigneur, que tu reviens aussi, Seigneur, qu'il y a un jugement. Et merci, Seigneur, parce que ce matin, tu vas encore nous parler. Seigneur, je te laisse ta place. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parle dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ton amour. Que ton nom soit loué, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'apporte le message sur le thème de l'espérance. C'est un thème qui m'a parlé personnellement, là, quelques mois. Je posais des questions, je faisais le bilan. Où est-ce que je t'ai rendu avec le Seigneur? Où est-ce que je t'ai rendu avec l'œuvre de Dieu? Et puis, versus mon travail, versus mes ambitions personnelles. Et ça, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé. Et c'est ça, le Seigneur me mettait à cœur que nous puissions le partager ensemble. Le thème de ce matin, c'est l'espérance, une source de motivation. Pourquoi je l'ai nommé comme ça? Parce que, vous savez, dans la vie de tous les jours, pour chacun de nous, il y a toujours quelque chose qui nous motive. Chacun de nous, il y a quelque chose qui nous motive, c'est sûr. J'ai déjà entendu certaines personnes dire, j'aime pas mon travail, j'aime pas ma job. Le milieu dans lequel je travaille, je l'aime pas. Mais si je suis encore là-bas, c'est à cause des conditions, c'est à cause du salaire. N'eût été que j'avais un bon salaire, n'eût été que les conditions étaient bonnes, je ne travaillerais plus là. Alors si on voit pour cette personne, la seule motivation qui lui reste pour aller à sa job, à cet endroit-là, ce sont les conditions. On connaît tous les athlètes. Quand ils sont prêts à un événement, comme les Jeux Olympiques qui étaient là, on voyait les reportages avant les Jeux Olympiques, tous ces athlètes-là qui se motivaient, qui travaillaient fort, qui ont coupé certaines choses dans leur vie, ils voulaient atteindre un objectif qui était d'avoir une médaille lors des Jeux Olympiques. Et ça, la médaille était une source de motivation pour eux. Ils pouvaient se priver de bien d'affaires, ils pouvaient faire toutes sortes de choses juste pour atteindre leur but. La question que je nous pose ce matin, nous les chrétiens du 21e siècle, qu'est-ce qui nous motive dans notre vie chrétienne? Avons-nous une motivation en tant que chrétien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous motive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te motive personnellement dans ta vie chrétienne? C'est une question que je me suis posée. Et l'espérance était quelque chose qui revenait sur mon cœur. Autre chose que je voudrais qu'on puisse faire une rétrospective, c'est effectivement les gens qui nous ont précédés. En introduction, je trouvais important de mentionner ce point-là. Abraham, Dieu lui fait une promesse. Je ferai de toi une nation. Dieu fait une promesse à Abraham qu'il remplirait la terre. Et Abraham savait ce que Dieu lui avait promis. Et Abraham savait que sa femme était stérile. Abraham entend la promesse de Dieu qui va le multiplier. Et Abraham savait que sa femme était stérile. Mais dans tout ça, il a mis la foi en Dieu. Et lorsque Abraham avait mis confiance en Dieu, et il savait que Dieu lui avait fait une promesse qui devait se réaliser, même quand Dieu lui demanda de sacrifier son fils, il n'avait pas hésité. Parce qu'il comptait sur la promesse de Dieu. Et il était motivé, toute sa vie était motivée sur ça. Moïse, avec le peuple d'Israël, Dieu demande à Moïse d'aller sauver ce peuple qui était en esclavage. Dieu dit, c'est toi que je choisis. Moïse est allé. On sait avant comment il a argumenté, mais il est allé. Il a compris que c'est Dieu qui était au devant. Dieu lui a dit, je vais être devant toi. Vas-y. Moïse est allé. Mais nous savons tous que ça n'a pas été facile pour Moïse. Les murmures du peuple. Comment il pouvait avoir des insultes? Je ne sais pas. C'était pas facile pour Moïse. Mais Moïse était motivé par une chose. Il savait que Dieu avait promis le pays de Canaan au peuple d'Israël. Et ça a motivé Moïse dans son ministère. Il savait où il s'en allait. Les disciples, Le Seigneur meurt. Le Seigneur Jésus est crucifié. On lit dans Actes des Apôtres que les disciples, ce qu'ils faisaient, ils se rassemblaient, ils priaient. Ils avaient une communion fraternelle. Ils avaient à cœur la poursuite de l'œuvre. Le Seigneur leur avait promis le Consolateur. Ils attendaient que le Consolateur arrive. Ils se réunissaient, ils priaient. Ils avaient à cœur la suite des choses. On a vu comment Pierre a pris tout son courage, s'est mis à annoncer la parole de Dieu, à prêcher. Ils avaient une motivation. Le Seigneur leur avait promis un Consolateur. Je vais terminer par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand on lit dans ses épîtres, il dit il y a une chose qui le passionne, c'est Christ. L'apôtre Paul, c'est Christ qui le passionne. Et l'apôtre Paul, une autre chose qui le passionnait, c'était le retour du Christ. Il savait que le Christ reviendra. Toute sa vie, c'était Christ. Et quand on lit ses épîtres, quand on voit la vie de Paul, il était motivé. Il était motivé parce qu'il savait ce qui s'en venait. Il savait où est-ce qu'il allait. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui, les chrétiens de Beauport? C'est quoi notre motivation? Est-ce que la vie chrétienne est finalement plate? Quand on voit les autres qui se rassemblaient, qui priaient, qui étaient ensemble, qui avaient une vision pour l'œuvre de Dieu, qui allaient ensemble dans cette direction-là, away go, il y avait des contradictions, il y avait, pour certains, il y avait même des menaces de mort, leur vie était en danger, ils se motivaient malgré ça. Ils fonçaient. Ils avaient une motivation, prêcher la parole de Dieu. Travailler pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul, on connaît sa vie. Il nous dit même dans les Écritures que je suis dans les liens. Pendant qu'il était attaché, il était dans les liens. Sachant sa motivation, il n'a pas baissé les bras. Il a continué à prêcher l'Évangile. Il a continué à annoncer le retour du Seigneur. Qu'est-ce qui nous motive? Sur quoi est basée notre motivation ici à Beauport? Sommes-nous les chrétiens motivés? Sommes-nous les chrétiens passionnés? Si oui, qu'est-ce qui nous passionne? Sommes-nous une église? Sommes-nous un pour l'œuvre de Dieu? Avons-nous une vision commune? Nous, les chrétiens de Beauport, qu'est-ce qui nous motive? Oui, ce matin, j'aimerais qu'on parle de l'espérance, qui est cette source de motivation. Et pour moi, je pense que l'espérance chrétienne, c'est pas quelque chose qui est juste un discours. C'est pas quelque chose qui est là comme une fable, quelque chose qui est passagère, comme quelque chose, on sait pas, oui, on y croit, mais on ne sait pas, on n'est pas sûr. L'espérance du croyant, c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est réel, que nous regarderons tantôt dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui motive ma vie? Qu'est-ce qui nous motive en tant que croyants? On a vu dans les exemples que nous avons cités tantôt, tous ces chrétiens qui étaient motivés par quelque chose. Ils étaient motivés par Dieu. Ils étaient motivés par la mission que Dieu leur avait confiée. On voit Job, dans Job chapitre 17, verset 15, comment il était motivé pour Dieu. Et David, on connaît tous un peu la vie de David. David qui voyait les ennemis qui l'entouraient, David qui voyait le pouvoir qu'il avait, le rôle que Dieu lui avait donné, il n'a cessé de mettre sa confiance en Dieu. Il criait tout le temps à l'Éternel. Il se référait tout le temps à l'Éternel. L'Éternel était sa source de motivation dans le ministère qu'il avait accompli. Le premier point que j'aimerais qu'on développe concernant la motivation de l'espérance, c'est que si aujourd'hui on peut parler de l'espérance chrétienne, mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui nous l'a promis. Mais ce Dieu-là, est-ce que nous le connaissons? Est-ce que ce que Dieu dit est vrai? Est-ce que Dieu existe réellement pour que je croie en ce qu'il me promet? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a promises dans le passé qui se sont réalisées? Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas trompés de chemin ce matin. On est au bon endroit pour adorer le vrai Dieu. Dieu existe. Ses promesses sont vraies. Dieu nous a promis son Fils. Dieu a promis d'envoyer son Fils. Jésus est arrivé. Jésus est venu mourir à la croix pour nous donner la vie éternelle. Ça s'est fait. C'était dans les promesses de Dieu. Dieu est cette personne stable. Dieu est cette personne fiable sur qui on peut se pencher. Comme on chantait tantôt, quel ami fidèle est tendre. Dieu est fidèle. Comment on ne peut pas lui faire confiance? Comment on ne peut pas se confier en lui? Dieu est stable, il ne change pas. La parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut se confier sur quelqu'un qui est stable comme ça? Dieu ne change pas. On peut lui faire confiance. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, les versets 1 à 5. La parole de Dieu nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'œuvre. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi on peut prendre l'espérance de Dieu comme une source de motivation? Parce que l'espérance chrétienne, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui est basé sur les faits certains. Jésus est venu sur terre, il est mort. Jésus a promis à ses disciples qu'il va leur envoyer le Consolateur, l'Esprit de Dieu. Le Consolateur est venu. Et le Seigneur a promis qu'il va revenir. Et c'est ce que nous attendons tous aujourd'hui. Si les choses qu'il a promises avant se sont réalisées, pourquoi celles qui restent pour nous aujourd'hui ne se réalisera pas? Jésus revient. Le Seigneur revient. Et la promesse que le Seigneur nous fait de revenir devait être quelque chose qui devait nous motiver aujourd'hui. Devait être quelque chose qui devait diriger notre vie chrétienne aujourd'hui. Parce que le Seigneur revient. On ne devait pas confondre l'espérance chrétienne et le sens du verbe « espérer » en français. Le verbe « espérer » en français indique quelque chose qu'on peut ou ne pas avoir. On peut espérer avoir quelque chose sans qu'on l'aille. Il y a un adage français qui dit « qui vit d'espoir meurt de faim ». Ça, c'est l'espérance du mot français dans son sens littéral, « espérer ». Mais l'espérance chrétienne, c'est quelque chose qui est réel, qui est certaine. L'espérance chrétienne, c'est quelque chose qui est basé sur des faits vécus et sur des choses qu'on sait qui vont arriver. L'espérance chrétienne, par rapport à qui vit d'espoir, meurt de faim, nous demande à être actifs. L'espérance chrétienne doit être vécue dans l'action et non dans la passivité. L'apôtre Paul, pour qui l'espérance chrétienne était quelque chose de très important, disait « Je traite durement mon corps à cause de Christ ». Paul était à l'œuvre, c'était actif. Il ne trouvait pas la vie chrétienne plate parce qu'il était occupé. Il ne se posait pas des questions si un jour, finalement, Dieu existe-tu? Maintenant que je suis dans des situations difficiles, maintenant que je suis dans l'épreuve, où est Dieu? Il existe-tu vraiment? Je veux le laisser de côté, je veux le reprendre plus tard. Maintenant que mon couple ne va pas bien, Dieu m'avait promis que je devais avoir un foyer. Maintenant que dans mon foyer, ça ne va pas bien, maintenant qu'avec ma femme, avec mon mari, ça ne va pas bien, Dieu n'existe pas. Je remets Dieu en question. L'espérance chrétienne n'est pas plate. L'espérance chrétienne est basée, au risque de me répéter, sur quelque chose qui est certain. L'espérance chrétienne, c'est quelque chose qui devrait nous motiver tous les jours dans notre vie. Même dans les chaînes, l'apôtre Paul a toujours reconnu que Christ était le centre de sa vie. Et dans cet état-là, dans cette condition-là, il trouvait le moyen de servir Christ. Est-ce que nous trouvons des moyens de servir Christ? Je nous prêche parce que le Seigneur m'a parlé à travers ce thème. Est-ce que malgré mes occupations, malgré mon travail, je trouve le moyen de servir Christ? Est-ce que malgré mon rang social, malgré ce qui m'occupe, je trouve les moyens de servir Christ? L'apôtre Paul, même dans les chaînes, il trouvait le moyen de servir Christ. Nous, les chrétiens de Beauport, les chrétiens du 21e siècle, qu'est-ce qui nous motive? Si l'espérance à venir est la chose qui me motive, même quand ça va mal dans mon couple, je dois avancer avec le Seigneur. Je veux réparer les choses dans mon couple. Mais mes yeux sont fixés vers le retour du Seigneur, parce que Christ reviendra. Si c'est pas Christ qui me motive, si je n'ai pas d'espérance, quand ça ira mal dans mon couple, mes yeux ne sont pas au bon endroit, mes yeux sont sur moi. Et quand mes yeux sont fixés sur moi, c'est sûr que ça pourra pas aller mieux. Ça va s'écrouler. Même quand ça va mal dans mon travail, si mes yeux ne sont pas fixés sur Christ, sachant que Christ va bénir mon travail, Christ m'a déjà béni, c'est lui qui a dirigé toutes mes activités. Quand ça ira mal dans mes activités, quand ça ira mal dans mon travail, quand ça ira mal dans mes affaires, c'est sûr que je vais crouler parce que mes yeux ne sont pas au bon endroit. Si mes yeux sont sur Christ, si je sais que Christ, celui que je sers aujourd'hui, qui va revenir me chercher, qui va me prendre avec lui, qui m'a déjà béni, celui qui dirige ma vie, si je sais qu'il est là, même quand ça va mal, je vais trouver les moyens de m'accrocher parce que je sais que Christ est ma vie. Est-ce que Christ est le centre de notre vie? Est-ce que Christ est réellement notre centre d'intérêt? Est-ce que c'est vrai en parole seulement ou c'est vrai en action? La vie chrétienne n'est pas passive. On doit être en action. On doit être en action. On doit servir le Seigneur. Pendant que je méditais sur ce message, je me suis posé une question en moi-même. Je dis, si le Seigneur pouvait réécrire la Bible pour les chrétiens qui vont venir, mon nom serait dans quelle épître? De quoi on parlerait de moi, Ghislain Chrétien, dans la prochaine Bible, s'il y a une Bible qui va s'écrire? Je sais que ça ne s'écrirait plus là, la parole de Dieu écrite est là. Mais je me suis posé cette question. Ça m'amène à voir, c'est quoi mon implication dans l'œuvre de Dieu? Comment Dieu me voit? Quand je me lève le matin, quand je m'en vais travailler, quand je rentre le soir, quand je fais le bilan de la journée, est-ce que quelque part Jésus-Christ dit, ouais, c'est vrai, ça a servi pour l'avancement de mon royaume sur terre. Vas-y, mon fils, lâche pas. Ou quand je fais le bilan de ma journée, c'est toujours moi, je dors. Le lendemain matin, je me lève, moi, je dors. Où est Christ? Qu'est-ce que j'ai fait pour l'œuvre de Christ? Les disciples qui vivaient dans le traumatisme, les disciples qui avaient peur pour leur vie, les disciples qui vivaient dans une période où il y avait toutes sortes de barbaries, ils n'ont pas cessé de se rassembler pour penser à l'œuvre de Dieu. Prier, la communion fraternelle, ils étaient ensemble. Ils n'ont pas cessé de regarder devant pour dire « Christ nous a promis quelque chose, ça s'en vient, on ne lâche pas. » Et nous au Québec, qui vivons dans la paix, on n'est même pas sûr. Tantôt David posait la question, j'ai entendu quelqu'un parler de « il n'y a pas des bombes qui nous tombent sur la tête ». Il n'y en aura pas, on est ici, on est en paix. On va sortir, tout est timé, on sait qu'à telle heure on va manger, le repas est fait, on sait même qu'est-ce qu'on va manger. N'est-ce pas merveilleux? On est bénis au Québec, nous qui avons tout. Qu'est-ce qui nous motive pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on peut dire finalement l'abondance est une malédiction? Vu que l'abondance nous empêche d'avancer dans l'œuvre de Dieu? Non. Notre Dieu est Dieu d'abondance. Merci Seigneur pour le pays qu'il nous donne. Merci Seigneur pour le bien qu'il met à notre disposition. Mais qu'est-ce qui nous motive? Sommes-nous des chrétiens motivés à Beauport? Pensons-nous à l'œuvre de Dieu à Beauport, autour de nous? Je m'inclus vraiment dans ce message. Et j'avais un travail à faire personnellement. C'est quoi mon implication dans l'œuvre de Dieu? Vous savez, je parle beaucoup, mais j'aimerais laisser la parole de Dieu, lire les versets qui est la parole de Dieu, qu'on lise pour voir l'espérance chrétienne, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? C'est quoi l'espérance chrétienne? Peut-être si on est ici ce matin, on ne sait pas réellement qu'est-ce que Dieu nous a promis. Peut-être qu'on ne le sait pas. On est ici dimanche matin, peut-être qu'on ne sait pas c'est quoi l'espérance, qu'est-ce que Christ m'a promis. Et j'aimerais qu'on projette quelques versets, et ces versets-là, prenez ces versets-là pour vous. Pendant que vous allez lire, Dieu a fait telle chose, dis qu'il l'a fait pour toi. Dis qu'il l'a promis pour toi. Prenons ces versets pour nous. Je n'ai pas d'écran ici. Hein? Ok. Vas-y Stéphane. Romains 8, 29, 30. Je ne fais que lire, je n'ai pas de commentaire à donner. Lisons ensemble et prenons ça pour nous. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous tous, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Comme par le Seigneur, ok? Continuons. Il passe quelque chose. Ok, on va aller Philippiens chapitre 3, verset 20-21. Je ne sais pas si j'ai pas la même version. Je vais lire ce que tu as mis, mais je ne sais pas. Ça ne sonne pas comme je le sais. Ok, Philippiens 3, 20-21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas s'il y a ceux qui veulent voir le Seigneur tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Éphésiens 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, car la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Tous ces versets. Ah, il en restait? Ok, ça, on verra ça après. Tous ces versets, on voit, c'est des belles promesses à venir. Ce ne sont pas des fables. Dieu a promis des choses dans le passé, ça s'est réalisé. Oui, Christ revient. Christ revient. Es-tu prêt? Est-ce que le retour de Jésus-Christ est quelque chose qui me motive? Est-ce que le retour de Jésus-Christ est quelque chose que j'ai à cœur? En me disant, vu qu'il s'en vient, ben moi ici-bas, je veux faire ce qu'il me demande de faire. Moi, ici-bas, je veux me motiver jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand j'ai les yeux fixés sur le retour de Jésus-Christ, sur l'espérance à venir, sur ce qui m'attend, comme je disais, ma vie sur terre ne peut qu'avoir une bonne motivation. Les conflits dans les couples devaient se régler dans l'amour. Le moi devait être mis de côté. Considérer l'œuvre de Christ qui s'en vient. Les difficultés interpersonnelles, ça devait bien se passer concernant ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui nous motive? J'ai prévu plusieurs versets que je donnerai plus tard. Où il y a ceux qui sont intéressés à venir avoir plusieurs versets pour venir me voir. Je vais vous donner à la fin. Je sais qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Mais on a des belles promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et les promesses que nous mentionnons tantôt, c'est des promesses qui sont claires. C'est des promesses qui sont vraies. C'est des promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est des promesses qui vont se réaliser. Le chrétien est cette personne qui devait être sûre de là où il s'en va. Parce que tout lui est présenté. Il y a des choses, parfois, dans notre vie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas demain comment ça va être. Mais la beauté du christianisme, c'est que tout est révélé. On sait où est-ce qu'on s'en va. On sait ce que le Seigneur nous demande. C'est merveilleux. Et la question que je me posais, mais pourquoi je ne suis pas aussi motivé tant que ça? Il y a une réponse qui me disait, parce que tu ne regardes qu'à toi. Parce que tu ne regardes qu'à toi. Parce que tu ne regardes qu'à toi. Tu veux être, tu veux être, tu veux être. Tu ne regardes qu'à toi. Regarde à Christ. À ce qu'il t'a promis. Et travaille pour l'œuvre de Dieu. On va lire deux versets. Romains 15, 4. Et puis Éphésiens 2. Romains 15, 4 dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Éphésiens 2, 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dieu a fait sa part. La part de Dieu est faite. Christ est venu mourir pour nous. Ça, c'est fait. Et l'espérance à venir, c'est sûr, Christ revient. Dieu a fait sa part. Il reste nous autres. Parfois, on a l'impression, bon, oui, je suis chrétien, oui, Dieu a préparé les œuvres d'avance, mais là, je vais attendre voir les œuvres de Dieu. La vie chrétienne n'est pas passive. On la trouvera plate. La vie chrétienne est active. Dieu nous demande d'être en action. Il dit, travaillons et luttons. Hein? Travaillons et luttons. Bientôt, le maître va venir. Est-ce que je travaille pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que je lutte dans l'œuvre de Dieu? Soyons fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travailler, ce n'est pas passif, c'est actif. Je vais terminer sur un point. Christ revient bientôt. Avons-nous hâte? Je n'ai pas beaucoup de réponses. Non? Avons-nous hâte au retour du Seigneur? OK. Vous savez, à l'époque de Noé, Dieu avait dit il y aura le déluge. Hein? Il avait dit, il y aura un déluge. Est-ce que les gens avaient cru à ça? Non. Ça mangeait, ça faisait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, ah ouais, il parla. Et puis, c'était ça. Ils avaient du fun. Mais le déluge est arrivé. Quand le déluge est arrivé, les gens étaient surpris. Noé était averti. Quand Dieu a dit à Noé que le déluge va arriver, qu'est-ce que Noé a fait? Il a commencé à préparer ce que le Seigneur Dieu lui avait dit. Là, il faut que j'aille chercher les planches par là. Il faut que je mette les clous. Commencez à préparer son bateau. C'est la même chose. Est-ce que Jésus nous a dit qu'il reviendra? Es-tu prêt? Est-ce que tu travailles pour ça? Je ne dis pas que c'est notre travail qui va faire qu'il revienne. Mais non, il nous a donné une instruction. En attendant que je vienne, vous faites ceci, vous faites cela. Faites tes disciples. Travaillez dans ma moisson. En attendant que je vienne, toi tu fais ça. Mais la question c'est quand il reviendra? Est-ce que je serai aussi excité que ça parce que je veux le glorifier comme il faut? Ou je me dis, il va-tu me demander si j'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire? Est-ce qu'il y a des interrogations dans ma tête? Est-ce que je suis un peu anxieux pour ça? Le Seigneur revient bientôt. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, une belle occasion. On a des belles promesses dans la parole de Dieu. L'espérance du chrétien, c'est quelque chose qui est vrai. On lisait tantôt, nous avons la vie éternelle. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous le sommes. Ce n'est pas des fables, c'est vrai. Nous serons dans la gloire du Seigneur. On va être régénérés. Nous serons dans sa présence. Où il n'y aura plus de deuil. Où il n'y aura plus de la tristesse. Où il n'y aura plus de larmes. Nous serons dans la joie, dans la présence de Jésus-Christ. Est-ce que ça c'est vrai dans ma vie? Est-ce que ça me motive? Est-ce que ça me motive? Qu'est-ce qui nous motive à Beauport? Qu'est-ce qui nous motive pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'être unis pour l'œuvre de Dieu à Beauport? Je ne dis pas qu'on ne fait rien pour Dieu. Je me pose juste des questions. Chacun de vous, vous savez c'est quoi votre place dans l'œuvre de Dieu. Chacun de vous, vous savez ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Je sais où est ma place, je sais ce que je fais pour l'œuvre de Dieu. Je me suis posé ces mêmes questions-là, que je nous pose encore ce matin. Sachant tout ça, sachant ce que le Seigneur a réservé pour moi, sachant que je m'en vais vers là, qu'est-ce que je fais pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui? Dans le commun des mortels, parfois on parle, mais je vais à l'église du pasteur David. Je vais à l'église du pasteur tel. Je ne sais pas si j'ai entendu ça, moi j'ai déjà entendu ça. Souvent on aime associer l'église au pasteur. Si ce n'est pas péjoratif, c'est correct. Mais si c'est l'église du pasteur, c'est lui qui doit tout faire pour son église, là il y a un problème. C'est l'église du Seigneur. Et nous tous, nous sommes des membres dans cette église. Dieu nous demande de travailler ensemble avec un leader qu'il a mis pour avancer son œuvre. Si on a des suggestions, allons voir David. Faisons des suggestions pour l'œuvre de Dieu. Et je sais que David est très ouvert pour ça. Je sais qu'il me tire souvent l'oreille parce que... Mais David est très ouvert pour ça. Amenons des suggestions, amenons des idées. Travaillons ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'aimerais qu'on chante ensemble le célébrant Dieu 227 pour terminer. Quand Christ reviendra, on sera dans la joie. Ça va être le repos céleste. Mais pour le moment, le repos n'est pas là. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on bûche. Il va y avoir des épreuves. Ça va être difficile. On va voir la tristesse, il va encore avoir le deuil. C'est drôle parce que hier, j'étais à l'extérieur quand je rentrais. Ma femme m'a posé une question. Comment on avait vécu le deuil de mon petit frère qui était mort en Afrique pendant la guerre? J'avais toutes sortes d'émotions. Je revivais ça. J'étais triste. Moi, je dis, écoute, Natacha, cette tristesse-là ne sera plus là quand le Seigneur va revenir. On va être dans la joie. Levons-nous, on va chanter ensemble. Quel repos céleste. On va être dans la joie, dans la paix du Seigneur. Et si on a hâte à ça, impliquons-nous dans l'œuvre de Dieu. Travaillons ensemble pour l'œuvre de Christ.
Repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi.